La première, 11h midi, au positif, avec Véronique Thiberghien.
Et avec Titou, Aline et Jean-François, parce qu'aujourd'hui on oublie les noms de famille, donc on va rester dans cette simplicité. Titou Bosseret, Aline Scountia, sage-femme bien sûr, et Jean-François Legrève, gynéco-obstétricien, bonjour.
Bonjour.
On va parler avec vous de procréation médicalement assistée, conseils éclairés de nos sages-femmes et de notre gynécologue. La Belgique compte de plus en plus de personnes aujourd'hui ayant recours à la procréation médicalement assistée. C'est pas une raison pour banaliser ce phénomène. Et avec nos sages-femmes et notre gynécologue, on va essayer de vous aider, de répondre à quelques questions. Quand décide-t-on d'y avoir recours? Qui peut décider? Pourquoi et comment est-elle vécue, cette procréation médicalement assistée? Quelles sont les informations à retenir? Quels conseils peuvent aider les parents qui se sont lancés dans l'aventure? On en parle donc avec vous aujourd'hui aussi au 60 31 pour les SMS ou 02 737 26 06 pour nous envoyer vos messages, témoignages et autres. N'hésitez pas à prendre la parole dans cette émission puisque c'est également la vôtre. Et puis on donnera la parole également à Isabelle Barry. Ça sera pour la perf du jour, un livre à vous conseiller. Le livre s'appelle Zebraska et on reparlera des enfants à haut potentiel avec elle. Et puis dans notre ADN, Lionel viendra nous reparler de Facebook et d'Apple et de la congélation des embryons. La Belgique vient de prendre position. On en parle avec elle en fin d'émission.
Au positif, le dossier.
Procréation médicalement assistée, alors c'est vrai, on y a beaucoup recours aujourd'hui en Belgique, mais c'est pas forcément une raison pour banaliser la situation, parce que ce sont des situations qui sont extrêmement personnellement vécues, bien entendu. Alors, quand je dis qu'on banalise, bon, c'est pas encore non plus quelque chose qu'on fait comme préparer un gâteau, le mettre dans son four, attendre que ça cuise, et puis on le ressort et on discute et tout est bon. Il y a quand même encore quelques obstacles aujourd'hui, et puis ça reste un acte médical, et ça reste une prouesse aussi scientifique quand même, hein, ça le grève.
Tout à fait. Donc c'est vrai qu'il y a tout un côté de médicalisation. Oui. Donc c'est vrai que c'est plus faire l'amour et avoir un bébé, quoi. Il y a quelque chose d'autre. Mais quand on est dans une situation où il faut avoir recours à la PMA, à la procréation médicalement assistée, on est vraiment dans un autre processus et il y a vraiment une autre médicalisation. Mais c'est vrai que c'est pas comme ça, quoi. C'est un processus qui est d'abord long pour y arriver, parce qu'on ne le fait pas comme ça quand on a décidé. Il y a toute une mise au point. C'est un an de tentative. Enfin, c'est 12 cycles. Enfin, c'est 12 mois, normalement, si on a des cycles d'un mois. Mais si des cycles d'un mois et demi, ben, c'est un an et demi.
Oui.
Donc, c'est 12 cycles où on essaye d'avoir un bébé, ça ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, on fait une mise au point, prise de sang, spermogramme, tout ça. Et en fonction des résultats, en consulte, je dis souvent aux patientes, en fonction des résultats, s'il n'y a pas de souci, bon, on peut encore attendre un petit peu. Voilà. Et puis, c'est les gens qui décident aussi à partir de ce moment-là, s'ils vont à ce moment-là en fécondation in vitro ou s'ils attendent encore un petit peu. Ils peuvent aussi aller prendre un rendez-vous pour voir ce qui se passe et vers quoi on va. Donc, avoir des échéances, pas se dire on attend et on attend, c'est d'avoir des échéances. Mais il faut savoir que c'est très médicalisé et que donc, il y a un côté comme ça où il faut passer le pas, quoi. Il faut vraiment y aller. Et ce qui est compliqué chez les patientes qui ont fait de la fécondation in vitro, c'est qu'une fois qu'elles sont enceintes, elles sont un peu lâchées comme ça. Et donc, c'est vrai que le pas là, une fois qu'elles sont enceintes et que la grossesse est lancée, c'est hyper médicalisé. Et puis d'un coup, qu'est-ce qu'on fait après, quoi?
Oui, c'est ça. J'imagine qu'il y a des angoisses qu'il va falloir gérer. Ah, oui. Et surtout éviter. 02 737 26 06 si vous voulez prendre la parole dans cette émission. Sandra Voras qui réalise cette émission prend également vos appels. Titou, Aline, vous avez de plus en plus affaire à des futurs parents qui ont...
Vraiment de plus en plus, non. Mais on en a régulièrement.
Oui.
Et c'est vrai qu'ils viennent avec une demande d'accompagnement sécurisant comme tous les couples,
ouais.
Mais parce qu'ils basculent vraiment de quelque chose de très médical et ils voudraient réhumaniser, justement. Et le vécu, en général, est assez pénible, ben chacun leur histoire bien sûr, mais en tout cas la prise en charge des équipes qui font, qui leur permettent enfin d'être enceint, en général, est assez extraordinaire au niveau humain, mais tellement médicalisé, douloureux, pas facile à gérer au niveau émotionnel, puisque évidemment, suivant le traitement, il y a des stimulations au niveau hormonal. Et donc, au niveau émotionnel, psychologique, dans le couple, il y a vraiment tous les aspects qui sont fragilisés. Donc, c'est des équipes très, très compétentes et très humaines. Et je me souviens, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir de travailler en stage quand je faisais mes études. Et c'est vraiment une cellule à part dans l'hôpital, quoi. C'est vraiment très particulier. C'est toute une équipe de médecins, d'infirmières, de psy, enfin c'est vraiment un petit monde à part. Et ils sont très très motivés et très très proches des gens. Mais c'est particulier parce que quand on stimule, quand on va prélever les ovules, ben c'est douloureux, c'est vraiment pas évident du tout. Mais par contre, je me souviens d'avoir suivi un couple pendant tout le processus et quand on réimplante l'ovule fécondé, il y a vraiment cette envie d'intimité. On a l'impression qu'on est dans la chambre à coucher des gens. C'est assez extraordinaire. Et donc, les équipes mettent en place... ils peuvent proposer au couple de mettre de la musique et de faire vraiment un petit rituel s'ils en ont envie pour rendre ça un peu sacré. Bon, tout le monde ne va pas le faire. Mais c'est clair que c'est un parcours du combattant. Donc, quand ils arrivent chez nous, évidemment, ils ont envie d'être accompagnés, rassurer, qui est surtout une réhumanisation de tout ce processus.
Oui, c'est ce qu'ils demandent souvent. Enfin, oui, les gens qui viennent s'adresser à nous, alors c'est de demander quelque chose de normal, de revenir à quelque chose de banal, de moins surveillé, moins contrôlé, où on peut vraiment lâcher la pression. Et je pense que c'est ça, après cette tension formidable de tomber enceinte, comme disait, parce que c'est un couple, de retrouver quelque chose où on peut se laisser, on se laisse couler.
Et parfois, comme Titou disait, mais je rebondis là-dessus, c'est vraiment, les équipes sont tellement autour de la patiente pendant tout le processus, que c'est vrai que certaines demandent d'avoir un peu de normalité, entre guillemets, de moins médicalisé, mais il y en a qui sont complètement paumés d'avoir eu tout ce côté où vraiment l'équipe est tout le temps autour d'eux. Enfin, ils se téléphonent tous les deux jours, on fait des échographies tous les deux jours. Enfin, il y a vraiment toute une prise en charge où ils sont très très proches tout le temps. Et puis elles sont enceintes, ça fonctionne bien, elles sont à 7, 8, 9 semaines. Elles retournent à un truc normal, mais parfois elles sont aussi perturbées du fait il n'y a rien d'autre. Quoi. C'est aussi.
Il y a un vrai risque.
Deux.
Que ça se passe moins bien pour ces patientes.
Alors, c'est relativement controversé. C'est-à-dire que certaines études disent qu'il y a plus de malformations cardiaques, plus de malformations urogynéco chez le bébé, qu'il y a plus de menaces d'accouchement prématuré et d'accouchement prématuré. Et puis d'autres, non. Donc, et puis les gens qui travaillent en PMA, en général, disent que quand on regarde sur des grandes séries, c'est pas tout à fait vrai. Et puis, donc, c'est un peu... on n'a pas vraiment une idée claire en disant on est sûr que ça augmente ceci ou que ça diminue cela. Et qu'avant, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de grossesses gemellaires et triples, donc on augmentait les risques qui étaient proportionnels à ça. Maintenant, c'est moins le cas. Ils ont vraiment affiné les techniques pour qu'on... Et puis, il y a des lois qui disent qu'on peut réimplanter un seul bébé, enfin un seul embryon, jusqu'à tel moment où là, on est plus libre. Mais c'est beaucoup plus légiféré maintenant. Et donc, grosso modo, on remet un seul embryon.
C'est ça, mais c'est légiféré justement pour éviter les
Grossesses gemellaires triples. Ouais. Et donc, ils ont changé les milieux de culture, ils ont changé plein de choses pour qu'il y ait beaucoup moins de grossesses gemellaires sur procréation médicalement assistée.
Ce qui se passe aussi, c'est que les couples qui font tout ce cheminement, souvent, arrivent à un certain âge, pour les femmes. Donc, forcément, en général, on ne fait pas ça à 25 ou même 30 ans. Et donc, ça augmente aussi ces risques-là qui ne sont peut-être pas dus à la fécondation in vitro.
Et puis les menaces d'accouchement prématuré qui sont liées aussi au stress vécu déjà avant, le stress de est-ce que cette grossesse va tenir et jusqu'à quand est-ce que je vais pouvoir tenir ça. Et voilà, ça joue aussi dans...
C'est à ça aussi que je pensais, est-ce qu'il y a un risque de perdre... Parce que ça, à mon avis, c'est une question qui doit revenir très régulièrement chez les femmes, notamment.
Il y a un contexte à la fois médical, physiologique de la muqueuse utérine, de la qualité, entre guillemets, de l'embryon, mais aussi le contexte psycho social qui fait que dans quel environnement évolue cette maman, évolue ce couple, qu'est-ce qui se passe dans le couple, comment c'est pas anodin.
Oui, non, mais grosso modo, par rapport au risque de fausse couche, par exemple, quand la grossesse commence, on revient, je dirais, dans un cadre normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de risque, pas moins non plus, mais pas plus. Et donc on retombe, donc il y a toujours un risque de 12 semaines, et il faut continuer à surveiller jusqu'à 12 semaines. Et voilà, donc on n'est pas dans une augmentation du risque de grossesse non évolutive dans la fécondation in vitro.
Maintenant, on sait que dans le milieu médical, ça a été clairement dit que les patients, les mères bien accompagnées, rassurées par la personne qui suit leur grossesse, il y a un pourcentage de diminution des fausses couches, vraiment. Donc c'est clair qu'une consultation... une fois par mois de 10 minutes à un quart d'heure ne peut pas rassurer une femme et certainement pas quelqu'un qui vient de vivre ça. Donc c'est très important et c'est vrai que, on l'a déjà beaucoup dit, mais dans notre accompagnement, tous les trois, hein, d'ailleurs, on prend beaucoup de temps avec les gens et on essaie justement de positiver leur capacité à faire grandir cet enfant et toutes les ressources de la mère, du père, de la famille, mais vraiment de la conforter là-dedans pour qu'elle nourrisse bien son bébé. Il y a tout un aspect psychologique très important au-delà du côté obstétricale.
Oui, parce que pendant tout un moment, elle se sent... Enfin, pas tout à fait mère, elles n'y sont pas arrivées, on a dû les aider. Donc il y a un côté de, si nous on ne croit pas en leur capacité, qui va y croire? Donc c'est vraiment de leur redonner confiance en elles, nous avoir confiance en elles pour qu'elles puissent avoir confiance en elles-mêmes et évoluer vers...
Et puis il n'y a pas que l'aspect purement médical, il y a moyen de se faire aider par des techniques alternatives de détoxication. On travaille avec une nutritionniste qui, elle vraiment voit dans sa patientèle des gens qui sont confrontés à des produits toxiques toute la journée, hommes ou femmes. Et qui dit, ben, une fois qu'on peut rétablir la qualité des tissus du père et de la mère, on augmente les chances non seulement de tomber enceinte naturellement, mais aussi quand, en cas de besoin de PMA,
que ça fonctionne
mieux. Mmh. Donc il y a l'aspect nutritionnel avant même de tomber enceinte. Où est-ce que vous vous trouvez? Et puis une fois qu'on voit que ça ne marche pas, mais il peut y avoir aussi d'autres techniques comme l'acupuncture ou le shiatsu. Mmh. Voilà, il y a plein de... de complément, pas d'alternative, mais de complément à un suivi purement médical.
Augmenter le filet de sécurité autour des patientes avec d'autres intervenants et qui peuvent... Alors, en effet, on ne va pas remplacer la fécondation in vitro par le shiatsu ou par... Mais on peut améliorer les choses.
C'est un outil supplémentaire
quoi, une corde en plus à l'arc.
Et en fait, c'est le rôle de la maman. Oui. Quelque part, hein, elle est la maison de son bébé, donc il faut que la maison soit agréable, soit paisible, soit bien nourrie, soit aérée.
Non, je trouve pas.
Si, c'est accueillant.
C'est ça. Fait grosse brique dans le ventre.
Je veux dire, en comparaison au travail médical fait autour d'elle, elle, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Au lieu de ne pas juste subir, c'est accompagner le processus en étant, elle, positive, confiante en ses capacités, mais d'être accompagnée là-dedans, puisque évidemment, au départ, il y a beaucoup de peur et de stress.
Dans quelques instants, on reparle évidemment de tout cela et on répond également aux questions qui nous arrivent. J'ai tenté la PMA avec la FIV, 4 tentatives, 4 échecs. Formidablement soutenue par le psychiatre de Saint-Luc, comme la gynéco et l'équipe d'infirmières qui m'ont annoncé que ça ne fonctionnerait pas. J'ai pris un pour m'en remettre avec l'aide d'une psychologue, 2 ans pour m'en remettre médicalement. C'est maintenant derrière moi, nous dit cette personne par SMS au 60-31. Comme quoi, comme je disais, il ne faut pas banaliser, effectivement, il ne faut pas banaliser, même si ça se fait plus régulièrement aujourd'hui. J'ai fait des FIV pendant la moitié des années 90, bien accompagnée au CHU Saint-Pierre, bonne pub hein, pour tous les hôpitaux, bien accompagnée donc pour ces FIV. FIV pour l'opinion publique de l'époque, c'était forcément avec donneur, alors que c'est très rare, et ce n'était pas mon cas. Les esprits ont-ils changé depuis? On se retrouve avec Titou, Aline et Jean-François juste après ceci.
La première avec Véronique Thiberguien. Au positif.
Et Titou Bosseret, Aline Scoutier et Jean-François Legrève qui sont avec nous. Nous parlons de procréation médicalement assistée, conseils éclairés de nos invités, bien sûr, en la matière. Petite suite au message par SMS que nous avions reçu au 60-31 il y a quelques instants pour nous préciser que le couple avait beaucoup souffert. Je conseillerais à l'équipe de dire au couple qu'il risque de trinquer. Mon mari m'avait laissé vivre tout cela seul et je crois que ça a été le plus dur pour moi. Donc, faisant référence au message de cette dame qui avait fait 4 tentatives de FIV, 4 échecs et qui avait été soutenue par son psychiatre mais qui avait dû évidemment avoir un long chemin avant de pouvoir sortir la tête de l'eau, si j'ai bien compris son message. Et puis nous sommes passés par la FIV, nous dit Sarah, à la suite du cancer de mon compagnon qui a la maladie d'Hodgkin. Nous ne sommes jamais passés par les essais naturels et nous avons aujourd'hui un merveilleux garçon de 2 ans et demi, nous dit Sarah. Alors, pour revenir aussi sur les changements de mentalité, alors, est-ce qu'effectivement les mentalités ont beaucoup changé, à la fois le regard de la société, mais aussi les mentalités médicales, des institutions médicales, des équipes, parce que ça me semble, enfin, ça fait un bon moment qu'elle travaille de manière pluridisciplinaire, avec un accompagnement d'équipes de différents horizons, et que, véritablement, ça a été même parmi les précurseurs avec les personnes qui traitaient le cancer du sein, pour travailler en équipe et avoir un vrai accompagnement de longue durée.
Tout à fait. Et donc, au départ, c'est vrai que c'était... elle était un peu paumée toute seule, et que là, vraiment, il y a des équipes pluridisciplinaires. C'est, comme disait Titou tout à l'heure, c'est vraiment une équipe dans l'équipe. Quoi. C'est vraiment, au sein de l'institution, c'est vraiment une petite équipe qui tourne super bien. Enfin, une petite. Une équipe qui tourne super bien et où il y a vraiment de l'information qui passe. Enfin, c'est vraiment un encadrement qui est tout autre du début de la fécondation in vitro. Quoi. Mmh. Ouais, ça, c'est clair. Et je pense que, oui, c'est important, comme tu disais tout à l'heure, de ne pas banaliser la procréation médicalement assistée parce qu'on en parle de plus en plus dans la société, on en voit de plus en plus, c'est remboursé, donc c'est accessible à, c'est accessible à beaucoup plus de monde. Ah. Et donc...
Oui, c'est assez nouveau que ce soit remboursé.
Oui, il y a quelques années.
Oui, mais enfin, il n'y a qu'une partie encore.
Donc c'est plus accessible que quand ce n'était pas remboursé du tout. Ça s'ouvre. Mmh. Donc il y a quand même de plus en plus d'ouvertures et les équipes ont quand même vachement changé par rapport à avant.
Aline ? Oui, j'avais envie de rebondir sur le témoignage de cette dame par rapport au cancer ou la maladie de son compagnon. J'ai dans mon entourage assez proche une jeune femme de 20 ans qui souffre d'un cancer assez important et à qui on a proposé avant la chimio de prélever des tissus ovariens. Mmh. Et elle a dit non. Elle a dit je pouvais probablement m'en sortir de mon cancer, mais mon matériau génétique n'est pas vu ce que je suis en train de subir. J'ai pas envie d'avoir le risque de transmettre ça à un enfant. Et disant je vais être créative autrement, j'aurai des enfants autrement. Et donc de rebondir sur ce que disait la dame avec ses quatre filles qui n'avaient pas réussi, en disant la créativité, le don de soi ne passe pas que par l'enfant. Et qu'il y a donc d'autres voies à explorer quand ça ne marche pas. Et je trouvais ça, la maturité de cette jeune femme de dire non, mon matériau génétique, j'ai pas envie de le transmettre, mais j'aurais d'autres choses à transmettre que mon ADN, que mes gènes. Je trouvais ça très, très mature de sa part et que ça peut donner à d'autres personnes qui ne réussissent pas à dire comment je peux me prolonger au-delà d'enfants, me prolonger au travers de. Oui. D'un projet de vie, d'un projet social, d'un projet professionnel qui serait aussi nourrissant.
Oui, ça demande évidemment tout un cheminement. Et dans le couple, c'est pas toujours évident. Mmh.
On peut décider à n'importe quel moment d'avoir recours à la procréation médicalement assistée ?
Alors, oui.
Ou est-ce qu'il faut d'abord avoir essayé naturellement, obligatoirement ?
Oui, il faut d'abord. Non, on ne peut pas arriver en disant nous, on aimerait bien un bébé tout de suite, donc on va passer.
Vous n'allez pas le vérifier non plus.
Non, c'est vrai que c'est sur anamnèse, donc c'est le médecin, ça fait 2 ans qu'on essaye. Ben donc à ce moment-là, on met toutes les choses en place, donc toutes les analyses nécessaires pour commencer la fécondation in vitro. Mais oui, en fait, la PMA, c'est un peu plus large. Hein, donc il y a les inséminations intra-utérines. Donc la procréation médicalement assistée, c'est quand il faut assister, parce que ça ne fonctionne pas tout seul. C'est pas tout de suite de la fécondation in vitro avec les stimulations ovariennes, les ponctions et tout ça. Il y a d'autres choses aussi. Il y a des stimulations simplement hormonales, on ne fait rien d'autre. C'est pas que ça. Mais c'est sûr qu'on ne sait pas. Mais c'est comme le couple homosexuel qui vient avec un homme pour dire qu'ils veulent de la fécondation in vitro parce que ça ne fonctionne pas. Enfin voilà, et qu'il n'y a pas de spermatozoïdes. Enfin, on peut toujours mentir, mais a priori, on ne peut pas demander comme ça pour choisir le sexe. Enfin, Gilles Cézanne était venu parler du diagnostic préimplantatoire. Alors, quand on a une pathologie qui est liée au sexe, voilà, il y a possibilité de décider à ce moment-là, face à la pathologie ou au problème.
C'est ça, s'il y a
un bagage qui est connu de maladie héréditaire ou génétique ou autre, de dire, dans ces conditions-là, on peut passer par la fécondation in vitro pour contourner le problème. Mais ça, c'est des discussions. Mmh. Et donc, on ne choisit pas comme ça quand on en a envie. Il y a un cadre. Et puis, c'est... Celles qui n'ont pas de nécessité et qui font de la fécondation in vitro, je ne les comprends pas parce que c'est quand même très très lourd. Et donc,
Mais c'est vrai qu'il y a 3 étapes. Hein. Donc il y a d'abord évidemment investiguer s'il y a un problème chez l'homme ou chez la femme. Et puis sinon, ce sera en fonction du problème, d'abord la stimulation ovarienne. Puis la deuxième étape, le deuxième traitement possible, c'est l'insémination avec stimulation parfois. Au niveau ovarien aussi, et puis seulement la FIV. Et là, évidemment, c'est le traitement le plus lourd. Donc il y a vraiment plusieurs étapes, et aussi quand une femme a eu plusieurs fausses couches, la troisième fausse couche, là vraiment, elle, en général, le gynéco lui dit « Ok, on va investiguer plus loin. » Parce que dans l'histoire des femmes, il n'y a rien à faire, ça reste quand même un peu tabou, on n'a pas envie de parler de ça, et souvent les mères ou les grands-mères ne disent pas d'office à leur petite fille ou à leur fille « Ben oui, tu sais, moi, j'ai fait plusieurs fausses couches avant que tu tu arrives. Voilà, et donc il y a tout un contexte à déblayer, à découvrir. Mais c'est clair qu'on ne va pas tout de suite à la FIV. Et alors il y a des conditions aussi, par rapport... on ne va pas au-delà de 43 ans, enfin, au niveau des remboursements, en fait. Sinon, il n'y a pas de date limite. Et ça, il faut savoir qu'il y a quand même 18 centres de PMA en Belgique. C'est quand même énorme. Et donc, forcément, il y a des limites au niveau remboursement. Et donc, c'est 43 ans, c'est le fait que ça doit être vraiment... les analyses doivent être faites dans un des centres. Et c'est très, très... oui, c'est tout le contexte est vraiment bien organisé, médicalisé et contrôlé. On fait pas, en tout cas ici en Belgique, on ne fait pas n'importe quoi. Maintenant, aux États-Unis, c'est clair que on va de plus en plus vers le.
On n'en parle pas.
On n'en parle même pas. Hein, parce que...
non, parlons pas.
Voilà. Donc ici, ça reste quand même dans une envie d'aide.
Ouais, il faut pas aller aux États-Unis parce que à Prague, on peut choisir le sexe en fécondation in vitro parce qu'on a envie d'avoir un garçon quand on a eu deux filles. Hein. Sans pathologie liée au sexe.
Oui, j'imagine qu'il n'y a pas que là. Il doit y en avoir d'autres
aussi.
SMS de Marie. La PMA, c'est un combat de tous les jours, mais une belle aventure. Car un jour ou l'autre, la patience et la médecine arrivent à un beau résultat. Ce bébé tant attendu qui vous fait oublier toutes ces épreuves, nous dit Marie par SMS. Vous pouvez également intervenir au 02 737 26 06. Vous avez raison, nous dit cette personne. Je suppose que c'est une dame qui nous écrit. Vous avez raison en disant que l'on se sent un peu lâché une fois que la fécondation a fonctionné, que l'on tombe enceinte. Je ne peux absolument pas en vouloir aux équipes, évidemment, nous changeons complètement de sujet et d'orientation, mais j'ai eu le même sentiment lorsque je suis rentrée chez moi avec cet enfant à la maison, l'impression d'être de nouveau lâchée. Heureusement, la sage-femme qui m'accompagnait m'a véritablement aidée et soutenue dans cette épreuve. Et puis une petite question, quand peut-on s'adresser à une sage-femme dans le processus d'une procréation médicalement assistée?
Dès que la grossesse est en cours,
même avant,
en préconceptionnel.
Je pense qu'il y a ça dans la question. Ouais.
Mais ça, c'est vrai que le public ne sait pas. Hein. On le répète le plus possible. Et on peut vous voir vraiment avec plaisir en préconceptionnel pour justement, comme disait Aline, préparer aussi au niveau hygiène de vie, alimentation, comme tu disais, acupuncture, et d'autres choses qui peuvent aider. Qui pourrait aider au niveau de la fertilité. Et donc, ça, c'est vraiment quand vous voulez. Et donc, on a des couples, nous, dès que l'équipe a dit « c'est OK, c'est bon, la grossesse est en cours », ils arrivent chez nous. Et ce qui est quand même aussi extraordinaire, c'est les gens qui ont eu recours à la FIV et puis qui un an après, à peine, elles sont enceintes complètement naturellement. Oui. Et donc, il y a vraiment des déblocages qui se font, comme lors de l'adoption.
On y revient juste après Julien Doré, Mickey Green, Chou Wasabi.
Positif, le dossier.
Avec Titou Bosserel, Lynn Scontier, Jean-François Legrève qui sont avec nous, on parle de procréation médicalement assistée. Bonjour, j'ai fait une FIV DPI.
Diagnostic préimplantatoire.
D'accord. Avec sélection, car mon mari a une maladie génétique à l'usette de Bruxelles, qui est très bien.
Encore
hein. un autre.
Chance, on a.
Et oui, on a une petite variation comme ça. On préconise de marcher de suite après la FIV au lieu de rester couché quelques minutes avec 2 heures de trajet pour le retour. Est-ce que ça vous semble favorable ou non? Alors attendez, qu'on fasse une fécondation in vitro ou pas, dans les magazines féminins, c'est ce qu'on vous conseille. Hein, si vous voulez tomber enceinte, après l'amour, vous levez les jambes et vous restez couché avec les jambes levées.
Oui, mais là, elle dit de marcher tout de suite après.
Et c'est ça qui l'étonne.
Bah oui.
Quand on lui est dit de marcher tout de suite après.
Nous sommes aussi un peu étonnés.
Oui. Non, enfin...
Alors si c'est en ce moment même... Asseyez-vous. Asseyez-vous.
Semi-couché.
Semi-couché.
Dans la voiture.
Maintenant, il ne faut pas l'inquiéter non plus.
Mais je pense que évidemment, il ne faut pas faire les grandes courses le jour même, machin. Mais si elle a 2 heures de route, elle met le siège de la voiture semi-couché, elle rentre comme ça, c'est pas lui qui conduit. Et puis voilà.
Mais ça se trouve, on l'a gardé déjà un peu à l'hôpital.
On ne met pas l'embryon et puis.
Oui, au revoir. Oui, j'imagine qu'elle a quand même... Rassurez-vous, on croise les doigts pour vous.
Oh, désolée, on ne sait pas vous répondre très très précisément. C'est peut-être une technique qu'ils ont, eux, là-bas. Et ils ont vu que le fait de s'activer peut-être potentialiser le...
Mais comme je dis, elle est peut-être déjà restée couchée pendant une
heure. Mais oui,
après, ça marche ce truc, Jean-François Legrève?
Les jambes en l'air?
Oui.
Il faut d'abord savoir si sa glaire est bonne. Si la glaire est accueillante. Pour le spermatozoïde, la glaire cervicale. Oui. C'est très important. Si on a une glaire accueillante,
faut pas lever les jambes.
Là, j'hésite. Dois-je explorer le sujet un peu plus loin et poser des questions
c'est pour être sûr?
J'ai ça allait me faire sourire. Dois-je lever un voile pudique sur tout cela?
C'est pour, le mois prochain.
C'est pour le mois prochain, voilà. Donc ça, on a déjà notre sujet. La visite d'une sage-femme avant de même envisager une FIV peut-elle être encourageante, peut-elle être informative ou dois-je finalement systématiquement avoir affaire à un médecin?
C'est bien de combiner les deux parce qu'on aura des informations très complémentaires. L'un n'exclut pas l'autre. Votre médecin donnera vraiment des informations très précises, techniques, vous rassurera, vous expliquera quoi. Et une sage-femme vous proposera d'autres alternatives, offrira une autre écoute. C'est vraiment on travaille main dans la main.
C'est notre casquette, quoi. C'est un autre point de vue, un autre réseau. Enfin, donc, c'est doubler les chances.
C'est vraiment ça. Doubler les
potentialiser
chances.
Potentialiser les choses.
Tripler.
J'ai un message extrêmement intéressant d'une personne qui nous dit j'étais complètement paniquée lorsque je suis tombée enceinte après une FIV. Je me suis retrouvée à la maison, j'avais des angoisses terribles, j'allais le perdre, ça n'allait pas bien se passer. Il faut dire que j'avais vécu 3 échecs au préalable, que c'était la 4e tentative. J'étais véritablement ce que l'on appelle une future maman très angoissée. Ce qui m'a rassurée, c'est de rencontrer d'autres mamans qui n'avaient pas subi de FIV et qui avaient elles-mêmes leurs propres angoisses, mais qui étaient à un autre niveau, mais tout aussi importantes que les miennes. Et cela m'a rassurée en me disant que le fait d'avoir fait une FIV ne devait pas être un frein pour moi pour vivre cette grossesse de manière la plus épanouissante.
Bravo.
Isabelle qui réflexion. Nous a envoyé ce message. Alors oui, c'est ça aussi. C'est que finalement, que ce soit par FIV ou pas, on pourra retrouver des mamans très angoissées avec des idées, des craintes et autres. Et qu'au fond, le but, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, c'est à la fois de respecter ces angoisses, mais de pouvoir les dépasser, rassurer et aider.
Surtout trouver les solutions, les voies qui vont vous permettre... parce que la grossesse, c'est une chose, mais après, il y a un petit bout qui va arriver. Et je vous promets qu'un petit bout, ce n'est pas tout à fait de tout repos. Et puis, il y en aura peut-être un deuxième. Donc, autant prendre soin de ces angoisses dès le moment où on sent qu'elles arrivent.
Et puis devenir mère, c'est angoissant, que ce soit en fécondation in vitro ou pas. Il y a plein de choses qui, dans sa relation à la mère à soi, enfin, il y a plein de choses qui se remettent là en jeu. Donc, de toute façon, c'est un moment où on a besoin d'être sécurisé.
Et de partager. Donc, c'est vrai que vous avez trouvé la bonne solution, là, déjà, une des bonnes solutions, d'en parler à d'autres mères.
Qui avait visiblement aussi des angoisses. Ouais. D'autres, mais aussi présentes. Catherine, j'applaudis de mes deux mains pour l'humanisation de la PMA. Il y a 20 ans, j'ai essayé. Il n'y avait aucun accompagnement psy. Et donc, j'estime que les échecs de mes 3 grossesses sont en partie liés à ça. J'ai d'ailleurs renoncé pour ne pas tomber dans une dépression. J'ai quand même eu une petite fille naturelle par la suite. Et bravo donc aux équipes actuelles. Bonjour, un autre témoignage par SMS cette fois. C'est une autre Isabelle qui nous dit « J'ai accouché il y a 3 semaines un petit garçon en pleine forme. Première FIV et succès au premier coup. Je me suis sentie soutenue et pas dans un acte médical lourd grâce à une gynéco qui a suivi le plus possible mon rythme. Piqûre quotidienne, début de soirée et pas à une heure précise. Implantation quelques mois après la ponction suite à ma demande. Avoir été entendue, écoutée et respectée fait partie du succès. Merci à ce gynéco. Bon courage à toutes qui n'ont pas eu ma chance, nous dit Isabelle.
C'est le principal. C'est clair. Qui que ce soit. Il faut être accompagné, avoir un espace pour pouvoir en parler.
Mais c'est vrai que 100% de réussite, c'est pas tous les jours. Donc c'est vrai que, comme elle dit à la fin, Isabelle a de la chance d'avoir eu, sur la première fécondation in vitro, son bébé. C'est vrai que grosso modo, c'est 25% de réussite, naturel. Quoi. Il y a un cycle sur 4 qui fonctionne. Et donc, c'est génial que la fécondation in vitro soit arrivée au même stade que le côté naturel. Mais donc voilà, il faut savoir qu'en moyenne, il faut 4 tentatives pour avoir un bébé. Et qu'il y en a 6 qui sont remboursées.
Et puis, dernier message, on terminera par celui-là, même s'il est hors sujet. Grâce à Titou et Aline, ma femme a accouché en douceur à la maison. J'ai pu accueillir ma fille Lilou à sa sortie. Et je pense que c'est signé Xavier.
Oui. Bonjour Xavier.
Bonjour. Voilà. Il y a toujours un message personnel. Vous ne vous parlez pas en dehors, c'est ça?
On ne se parle plus à un moment, c'est dommage.
Mais oui, il y a une coupure qui nous rend parfois tristes aussi, mais voilà,
la vie
continue.
Il faut laisser les enfants quitter le lit,
pas. Exactement. On n'est pas prêt de les oublier. On se souvient de toutes les naissances.
Oui, merci.
On vous retrouve dans quelques instants, si vous le voulez bien, et on vous parlera aussi d'un livre, cette fois dans notre perf du jour. Isabelle Barry nous parlera de Zebraska, et on reviendra sur les enfants à haut potentiel, puisque c'est le sujet de son roman. Il s'agit bel et bien d'un roman et pas d'un livre scientifique.
Au positif, la perf du jour.
Avec Isabelle Barry, bonjour.
Bonjour Véronique.
Bonjour Isabelle, vous êtes l'auteur de ce livre Zebraska, paru aux éditions Luce Wilquin. Vous y relatez l'histoire d'un père et de son fils, deux époques différentes, deux visions différentes également de ce que l'on appelle aujourd'hui les enfants à haut potentiel. Mais c'est un roman que vous nous proposez, puisqu'à travers le regard, le langage de Martin Leroy, qui a 15 ans, et la veille de Noël, lorsqu'il a 15 ans, il reçoit de sa grand-mère un livre qu'elle a écrit où elle relate sa propre histoire de mère d'enfant à haut potentiel, et il se verra confronté à la propre histoire de son père qu'il ne connaissait pas, ce qui nous permettra à la fois, grâce à votre ouvrage, d'humaniser mais surtout d'incarner les personnes à haut potentiel et de mieux les comprendre. Vous avez choisi la voie du roman pour nous présenter ces enfants à haut potentiel, parce que la littérature scientifique, c'est bien, et vous l'avez dit dans plusieurs interviews, vous avez eu besoin, vous aussi, de cette littérature scientifique pour mieux comprendre, puisque vous êtes vous-même maman d'un enfant à haut potentiel, mais que le roman, il n'y a rien de mieux que pour humaniser et surtout démystifier ces enfants à haut potentiel, parce que la problématique aujourd'hui, c'est leur non-reconnaissance.
Tout à fait. J'ai plus rien à rajouter. Vous avez fait ça merveilleusement bien. Je crois qu'il y a aussi dans le roman, il y a une dimension particulière aussi par rapport au témoignage, parce qu'on me demande parfois, tiens, pourquoi n'avez-vous pas fait un témoignage à partir du moment où c'est vrai que j'ai un petit garçon au potentiel aussi. Mais je pense que le roman offre une dimension supplémentaire que n'a pas le témoignage. Le témoignage, ça reste toujours l'histoire d'un autre. Le roman permet le partage, et l'auteur est obligé de prendre une distance par rapport à son texte pour justement pouvoir partager avec l'autre. Et je crois que c'est ce qui fonctionne très très bien dans un roman, et comme vous le disiez, qui procure une différence par rapport au texte beaucoup plus scientifique, où pour finir on a une liste de caractéristiques avec des petits exemples pratiques, mais il n'y a pas cette dimension du sentiment et de l'émotion. Le roman était vraiment une autre approche. Alors maintenant je m'en rends compte, j'en étais déjà convaincue de ce pouvoir des histoires et des romans. Maintenant que le roman est sorti il y a quelques semaines, c'est vrai que j'ai pas mal de retours de lecteurs, et j'ai vraiment la preuve vivante de ce dont j'étais convaincue, à savoir qu'en passant par l'émotion et les sentiments, ça bouleverse terriblement et ça fait passer des messages très complémentaires à tout ce qui est plus scientifique et plus sérieux, j'ai envie de dire.
Oui, mais je trouve, Isabelle Barry, que vous avez réussi le pari, et c'est pas toujours un pari facile à réussir, mais quand on veut mettre justement en avant des particularités comme ici, les enfants à haut potentiel, donner quand même quelques explications, essayer de faire comprendre et de faire passer des messages, il est parfois difficile de véritablement le transformer en roman. Et je trouve que votre force, c'est ici de l'avoir véritablement transformé en roman. Ce sont des personnages que l'on suit, que l'on aime, avec lesquels on rit. Et je trouve aussi qu'avec le roman, vous réussissez à faire passer peut-être plus en douceur certains coups de gueule que la maman Léa, la maman de Thomas et la grand-mère de Martin, peut parfois ressentir par rapport à la société, par rapport à son entourage, qui fait face à ce haut potentiel en se disant « c'est pas grave, il est intelligent, c'est très bien ». Et où vous expliquez, vous, non, haut potentiel, c'est autre chose, c'est beaucoup plus complexe que ça.
Oui, en fait, l'idée aussi était de démystifier un peu cet enfant au potentiel, où j'ai moi-même entendu très souvent, enfin, où est le problème, ton enfant est intelligent, on voit pas où est le souci. Évidemment, c'est très difficile de résumer, c'est quelque chose de très complexe, le haut potentiel, mais si je devais résumer ce que c'est avec mon regard de mère, bien entendu, et pas un regard de psychologue, ce que je ne suis pas du tout, c'est de dire que l'enfant au potentiel est un enfant qui a une manière de penser, un adulte aussi d'ailleurs, parce que ces enfants grandissent et deviennent des adultes, une manière de penser et de ressentir différente de la majorité des gens, parce que j'aime pas le mot normal, je trouve qu'il est vraiment pas adéquat, de la majorité des gens, et du coup, ils se sentent en décalage. Il n'y a pas une question de supériorité. Alors évidemment, les initiales HP, dès qu'on les exprime et qu'on les explicite et qu'on dit au potentiel, il y a toujours une idée de surintelligence, de supériorité, et qui est fausse, évidemment, et qui donne évidemment un sentiment qui est tout à fait à côté de la plaque. Ce sont aussi des personnes au potentiel dont la tête ne s'arrête jamais de tourner, donc se posent des questions sans cesse. Un enfant de 7 ans peut, au potentiel, peut vous demander si vous avez la foi, pourquoi le Big Bang s'est produit. Donc c'est très déroutant, mais c'est très déroutant pour lui aussi, puisque que les personnes de son âge, à ce moment-là, ne se posent pas les mêmes questions.
Non, et les réponses donc, que vous allez, vraiment... et souvent les réponses que vous allez lui apporter ne suffisent pas.
Tout à fait. Très souvent, l'adulte est en porte-à-faux par rapport à un enfant qui pose ce genre de questions. Ça peut être très déroutant et mettre parfois très mal à l'aise et avoir l'impression d'avoir parfois en face de soi un enfant à la limite impertinent ou capricieux ou qui n'a pas de respect pour l'adulte, ce qui n'est pas du tout le cas. Il est juste curieux. Il a une manière de l'exprimer très différente. Voilà.
Alors, je vais vous dire, Isabelle Barry, je vais vous faire un aveu et ça ne m'arrive pas souvent. J'ai ri quand j'ai lu votre ouvrage, parce que je trouve que Martin a un humour qui est typiquement le genre d'humour que j'aime bien. Ça lacère un peu, mais ça vous chatouille là où ça vous fait du bien aussi. Et c'est une particularité dans votre ouvrage, c'est que ces personnages à haut potentiel, ils ont un humour qui est quand même assez savoureux. Et en même temps, il y a beaucoup d'émotions dans tout cela. Donc, véritablement, moi, j'invite les auditeurs à découvrir Zebraska. C'est un très, très beau roman d'Isabelle Barry, paru aux éditions Luce Wilquin. On y parle effectivement des enfants à haut potentiel. On comprend mieux ces enfants à haut potentiel. On aime un peu ces enfants à haut potentiel aussi parce qu'on s'attache à vos personnages. Et donc, c'est véritablement un très bon moment de délassement, mais aussi de très jolis messages à recevoir. Merci beaucoup, Isabelle Barry.
Merci beaucoup à vous. Si je peux rajouter encore une petite chose, il y a une conférence qui se fait je donne le 13 novembre prochain dans le cadre chez Cook and Book. Oui, tout à fait. Et voilà, et qui apporte la dimension du partage évidemment par rapport au roman, puisqu'il y a une période débat qui est assez importante après la conférence. Voilà, donc j'invite aussi les personnes intéressées par le sujet à venir y assister.
Thématique, voilà. qui sont réellement ces enfants HP? C'est le jeudi 13 novembre, on met tout ça en lien sur la page Facebook. Merci Isabelle Barry, à bientôt.
Merci beaucoup, merci à vous, bonne journée.
On retrouve tout de suite notre ADN.
Au positif. L'ADN.
Bonjour Lionel Francard.
Bonjour Véronique, bonjour à tous.
Et donc notre ADN du jour, alors on part outre-Atlantique comme je l'avais dit, Facebook et Google font parler d'eux puisqu'ils seraient prêts.
Apple, pardon.
Oui.
Google.
Oui, c'est moi qui ai fait l'erreur aussi parce que j'avais dit Apple au début. Facebook et Apple donc qui ont décidé de financer la congélation d'ovules de leurs employés.
Oui, les deux géants de la Silicon Valley seraient ainsi les premières grandes entreprises à offrir à leurs employés une telle possibilité. Ils sont souvent novateurs en matière de management et donc ils vont faciliter pour leurs employés la congélation d'ovules en leur payant ce traitement qui permet donc aux femmes d'avoir des enfants plus tard.
C'est quoi le vrai but? Parce que c'est novateur, d'accord, mais bon.
Oui, c'est ça, et faire parler d'eux, mais en fait les deux compagnies qui emploient deux hommes pour une femme, eh bien cherchent à attirer les femmes dans les rangs d'un secteur encore très masculin et donc ils iraient jusqu'à couvrir jusqu'à 20 000 $ les frais d'une telle méthode, alors 20 000 $, 16 000 €, plus ou moins, ça coûte très cher. C'est sûr que c'est attractif pour certaines femmes. Alors, la congélation d'ovocytes offrirait ainsi aux femmes la possibilité de ne plus choisir entre carrière et enfant. Cela suit déjà une tendance dans notre société où les femmes effectivement font des enfants de plus en plus tard. À côté de cela, beaucoup, voire des féministes s'insurgent en disant comme s'il fallait choisir entre une carrière et avoir des enfants. Hein, ça ne semble peut-être pas incompatible.
Pas que des féministes d'ailleurs qui s'insurgent, il y a des hommes aussi. Et c'est là d'ailleurs qu'on découvre que chez nous en Belgique, l'autoconservation des ovocytes à but non médical est autorisée.
Ben oui, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie, voilà.
En France, depuis peu.
Ah voilà, parce que justement en France, dans un récent article, moi je voyais qu'au niveau éthique, c'était pas possible. C'était seulement en cas de maladie, en cas de traitement qui peut provoquer la stérilité. Et donc là, on anticipe et on permet la congélation d'ovocytes et d'ovules, mais manifestement...
Vraiment, dans les articles que j'ai lus, qui dataient de janvier 2013, c'était autorisé. Donc,
à but non médical ?
Apparemment.
Ah oui.
Il se contredisait dans un. Puis
ah bah
dans
oui,
l'autre,
voilà.
Donc,
Voilà. Bah, on voulait montrer la France en exemple, mais en tout cas la Belgique s'est autorisée. C'était ça l'info que je voulais passer.
Cela dit, une réaction quand même s'est fait entendre. Tout récemment, c'était au Parlement wallon.
Oui, c'était il y a deux jours. La ministre en charge des droits des femmes en Fédération Wallonie-Bruxelles, Isabelle Simonis, a dénoncé donc la volonté de ces sociétés américaines de financer la cryogénisation des ovules de leurs employés. Elle n'adhère pas à cela, dit-elle. L'entreprise n'a pas à s'emparer du corps des femmes.
l'État doit être garant de la liberté de chacun et de chacune, de quand il ou elle veut fonder une famille et ne pas laisser ce champ à des acteurs privés.
Il s'appuie d'ailleurs sur une étude récente menée par la VUB.
Oui, auprès de 2000 femmes belges sur leur désir de congeler leurs ovules, et il en ressort en fait qu'une très faible part des répondantes était motivée par la priorité donnée à la carrière professionnelle. La principale motivation, écoutez bien, c'était pour plus de 84% d'entre elles de trouver le bon partenaire. Et s'il faut, on repousse l'échéance jusqu'à trouver le bon partenaire. Enfin voilà, qui donne en tout cas, qui va dans le sens de la ministre. Elle dit aussi que elle a rappelé que la cryogénisation d'ovules, la procréation médicalement assistée qui y est liée, n'était pas à la portée de tous les budgets, on parlait de 16 000 euros, ce qui pouvait donc constituer un facteur de discrimination entre les femmes selon qu'elles sont issues de milieux aisés ou modestes.
Dites, ils ne feraient pas des crèches plutôt chez Facebook et Apple?
Elle préfère investir là-dedans. Oui. Pour les papas et les mamans, pas que pour les mamans.
Je sais que quelqu'un a chiffré, un journaliste qui a chiffré si ces deux entreprises faisaient des crèches ou finançaient des participations à des crèches déjà existantes. Ça leur coûterait beaucoup moins cher, mais je pense qu'ils tablent sur le fait qu'il n'y aura pas beaucoup de femmes qui vont accepter ce genre de démarche non plus.
J'imagine, enfin je ne sais pas, parce que ça, il y a un côté un peu sexy aussi d'avoir d'utiliser la technologie. J'imagine que certainement dans la Silicon Valley il y a un côté un peu attirant de pouvoir de maîtriser, de contrôler le flux de la vie. Donc
c'est autorisé en Belgique en tout cas de faire ça.
Jean-François?
Oui, mais oui. C'est désolant, mais c'est comme ça.
C'est désolant, pourquoi?
Parce que quand c'est à visée thérapeutique, c'est quand même... voilà, il y a une maladie, il y a un truc...
Au niveau de l'éthique, ça pose question.
Ça pose des questions de la valeur de notre société, si c'est l'argent, le travail, ou si c'est l'humain qui passe avant.
Oui, c'est vraiment... éthiquement, je ne comprends pas. Quoi. C'est vraiment...
De pénaliser des hommes ou des femmes qui décident de s'occuper de leur enfant, alors que quand on a 50 ans, qu'on a toute cette maturité, quand on a toute l'expérience qu'on pourrait apporter justement à une entreprise, qu'on a de nouveau la dynamique, plutôt que quand on doit s'occuper de petits-enfants qui ont vraiment besoin de nous. Et que là, on valorise les compétences des parents.
En plus, les parents, enfin, comme les couples font des enfants de plus en plus tard, les petits-enfants connaissent de moins en moins leurs grands-parents. Donc il y a tout un savoir aussi. Tout un passage.
Moi, j'entendais des femmes qui disaient, mais c'est bien parce qu'on nous laisse le choix, etc. Mais le vrai choix, c'est de se dire, soit je fais ça, soit je fais autre chose. Ici, elles n'ont presque plus le choix. Quoi. Soit je fais ça, soit je ne vais pas travailler chez eux.
Il y a tellement de choses à améliorer plutôt que de passer à ça.
C'est ça.
C'est ça qui est triste. Mais sinon, maintenant, je comprends bien pourquoi les femmes auraient envie de faire ça. Mais c'est pas juste. C'est pas ça qu'il faut améliorer.
Certaines féministes disaient, oui, mais au nom de l'égalité des hommes et des femmes, on peut conserver les spermatozoïdes des hommes, mais pas les ovocytes des femmes. Et puis, ça leur donnerait vraiment l'égalité au niveau des carrières. Mais revenons à autre chose, quoi. Pourquoi on donne pas de l'égalité aux papas qui veulent prendre un an de congé parental?
Ils en rêvent.
Effet d'annonce. Moi, je dis effet d'annonce. Lionel, on revient sur les annonces d'économie, justement, dans le secteur de la santé annoncées par la nouvelle ministre fédérale Maggie De Bloch. Une annonce qui concerne directement les maternités des hôpitaux et nos sages-femmes.
Oui, je voulais faire court, mais je profitais de votre venue pour en reparler avec vous, hein. Donc, cette mesure qui dit que les femmes devront quitter la maternité 4 jours après l'accouchement, soit un demi-jour plus tôt, le KCE, le Centre fédéral de l'expertise des soins de santé va dans ce sens, dit que ça va impliquer une réorganisation fondamentale des soins post-nataux, mais que c'est vraiment viser l'ensemble d'une période grossesse et après naissance et permettre vraiment une continuité et un suivi post-natal à domicile. Alors, ça pose pas mal de questions. Il va y avoir, l'épargne escomptée par le gouvernement se chiffre à 12 millions d'euros par an, donc il y a une véritable épargne. Alors, est-ce que c'est bon pour les hôpitaux, pour les maternités? J'imagine que ça valorise vraiment le métier de sage-femme, il va y avoir une réorganisation de ce côté-là aussi.
Oui, mais il faut que ça soit réorganisé.
Et que ce soit valorisé financièrement, parce que les conditions financières aujourd'hui du travail des sages-femmes, vu les services à domicile, ne sont pas. On ne peut pas travailler pour ce prix-là.
Et puis les sages-femmes hospitalières ne sont pas formées à suivre des mamans à domicile. À l'hôpital, on a toujours notre collègue qui est là, on peut demander l'avis et tout. À la maison, on peut téléphoner, bien sûr, mais il faut vraiment travailler en équipe et pouvoir appeler. On ne peut pas laisser un bébé qui ne grossit pas ou une difficulté. Enfin, très, très, très particulier. Et c'est vraiment les sages-femmes qui ont l'habitude de la physiologie, de l'allaitement, qui doivent aider celles qui vont faire ça. Donc, c'est vraiment une grosse réorganisation.
Eh ben, on en suivra le dossier, bien sûr, dans quelques instants. C'est le Forum de Midi, par contre, avec un tout autre dossier. On va aux États-Unis.
Podcast, la première.